10h-11h sur la première.
Les décodeurs RTBF avec Alain Gerlache.
Eh bien oui, je l'avoue, mon rêve secret, c'était de présenter Champs-Élysées. Je vois que ça vous fait rire. Maxime Birmé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste média au soir. Et nous avons aussi au téléphone Emmanuel Tourpe, directeur de la programmation et de la vidéo à la demande à la RTBF. Merci d'être avec nous. Le 27 janvier 1926, un scientifique écossais du nom de John Logie Baird faisait une démonstration d'un appareil de son invention, le téléviseur. C'est le premier à avoir produit une image télévisée d'objets en mouvement. C'était donc il y a 90 ans, même si évidemment il a fallu du temps avant que se développe la télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'elle est peut-être en train, non pas de disparaître, mais en tout cas de changer profondément au point que certains ne s'y retrouvent vraiment plus.
L'émission va continuer, bien sûr, mais bon, ça sera un petit peu déstabilisant pour les gens. Et la moindre des choses, c'est dire au revoir. C'est le minimum du respect qu'on doit avoir vis-à-vis des téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous suivre depuis très longtemps. 300 Prime, l'émission française la plus regardée à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe à France 3 en ce moment? Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, vous l'avez reconnu, c'était
Julien
Lepers à propos du changement de présentateur de Questions pour un champion sur France 3. Emmanuel Tourpe, les défis de la télé aujourd'hui, ils vont quand même bien au-delà du rajeunissement des animateurs, non?
Les défis de la télé, effectivement, ça ne concerne pas uniquement un rajeunissement, ça concerne un nouveau moyen de faire de la télévision. Et surtout de consommer des vidéos et de consommer les images. Vous savez qu'aujourd'hui, le public qui va plus seulement sur les très grands nombres de chaînes qu'il trouve sur son poste de télévision, mais il va consommer de la vidéo et de la télévision ailleurs, sur son portable, sur son mobile, sur son ordinateur. Donc le grand défi de la télévision, c'est de s'adapter à cette nouvelle façon de consommer des chaînes, des émissions. Et ça, c'est le plus gros défi auquel la télévision est confrontée pour l'instant.
Maxime Birmé, vous suivez les médias pour le soir, mais vous avez moins de 30 ans, je crois.
Tout à fait. Oui.
Voilà. Alors, la génération, cette génération, c'est celle qui regarde moins la télévision classique. Quelle est votre réaction par rapport à toute cette affaire dénoncée par certains, le jeunisme, etc. Est-ce que vous vous sentez concerné?
Mais d'un côté, oui, parce que franchement, entre nous, qui dans les moins de 30 ans attend impatiemment le prochain épisode de Questions pour un champion ou Vivement dimanche avec Michel Drucker? Pas grand monde, je pense.
Mais en même temps, la télévision, Emmanuel Tourpe, elle s'adresse aussi à des personnalités, à des gens plus âgés. Est-ce que la difficulté n'est pas maintenant à la fois de continuer à satisfaire ce public plus âgé qui constitue encore le gros des audiences de la télévision et en même temps, justement, de préparer l'avenir? Est-ce que ce n'est pas un grand écart très difficile à gérer actuellement?
Grand écart, je sais pas. En tout cas, un paradoxe normal à gérer, ça certainement. Alors, évidemment, la télévision, elle continuera encore demain à être regardée par un public qui, c'est la pyramide des âges, hein, qui tend à venir âgé. Et de ce point de vue-là, faire du jeunisme n'a vraiment aucun sens. De toute façon, en termes de service public, en tout cas nous, au niveau RTBF, on essaye de servir tout le monde et pas juste des cibles jeunes. Maintenant, en même temps, s'il faut pas faire du jeunisme, il faut pas faire du séniorisme. Le problème de France 3, ça a peut-être été pendant un moment qu'ils sont un peu facilité la tâche en laissant des émissions ne pas évoluer. Laisser un public peut-être vieillir trop facilement. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, en tout cas à l'RTBF, et je pense que d'autres opérateurs essaient de le faire, c'est dans les chaînes traditionnelles, c'est de toucher tous les publics et donc d'éviter de vieillir l'antenne tout en satisfaisant un public quel qu'il soit, même s'il est âgé. Et en même temps, et ça je crois que c'est le plus grand défi, bien plus important que les histoires de renouvellement d'animateurs, enfin ou quoi que ce soit, c'est d'aller sur les nouveaux moyens de consommation, parce qu'il y a tout un public qui ne viendra plus sur nos chaînes, qui ne viendra plus sur les chaînes linéaires. Donc le grand défi aujourd'hui, c'est la vidéo à la demande. Le grand défi aujourd'hui, c'est de pouvoir être disponible et pouvoir être diffusé et consommé sur des autres moyens, sur les mobiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les tablettes, sur les téléphones. Donc il faut vraiment, et ça doit être l'obsession, pas de jeunisme, pas de séniorisme, toucher tous les publics. C'est ça qui est important, tout en respectant chacun et tout le monde.
Maxime Birmé, c'est aussi votre analyse?
Oui, mais alors je pense qu'il faut rendre ça absolument sexy et accessible, facile, parce qu'il y a déjà une énorme offre qui est disponible et gratuite. Elle est illégale sur Internet, Mais tout le monde, en tout cas dans la jeune génération, et même je pense les autres générations de plus en plus, sait comment utiliser, sait comment avoir accès au contenu, surtout au niveau des fictions, au niveau des séries. Donc en fait, oui, je pense aussi que le défi pour les chaînes, c'est d'arriver à produire des contenus qui justement ne sont pas accessibles gratuitement et de façon très facile, de façon illégale, mais d'attirer avec certains contenus vers leur propre plateforme, par exemple.
Vous avez l'impression que ce qui compte maintenant, c'est de produire des contenus originaux qui permettent aux chaînes ou aux entreprises de se distinguer de ce que font les autres.
Mais oui, et puis c'est symbolique, par exemple, quand on voit Netflix, au début, c'était ils donnaient des films et des séries qui étaient justement accessibles pour tout le monde facilement, et ils ont développé, ils ont sorti des millions et des millions pour faire leurs propres films, leurs propres séries, qui sont maintenant leurs produits d'appel principaux pour que les gens s'abonnent chez eux et payent, parce qu'il faut faire payer, et ça, c'est pas facile.
Emmanuel Tourpe, est-ce que selon vous, à terme, la RTBF sera avant tout distributrice de ses propres contenus, de ce qu'elle aura produit pour le public belge francophone?
Alors, je vous arrête, Alain, c'est déjà le cas. Heureusement,
oui, mais
pour
enfin...
nous, RTBF n'est pas un simple distributeur de produits achetés ailleurs. Ceci dit, ce que vient de dire Maxime est très juste. Et on a tendance, tous les opérateurs essayent, mais particulièrement à l'RTBF, de effectivement produire de plus en plus des choses qui ne sont pas disponibles en téléchargement et qui sont propres à nous. Par exemple, très bientôt sur les antennes de la RTBF, nous allons diffuser une série de très grande qualité qui s'appelle « La Trêve ». Bah, bien évidemment, quand on la produit nous-mêmes, quand elle n'est pas disponible et téléchargeable partout et n'importe où, ça fait exactement ce que vient de dire Maxime, ça donne une originalité à notre offre et ça permet au public de se retrouver chez nous de manière spécifique et pas d'aller chez nous comme s'il était n'importe où ailleurs.
Est-ce que ça veut dire, selon vous, que les chaînes qui ne font que diffuser des produits achetés, ce qui en effet revient beaucoup moins cher,
sont déjà mortes?
Pourquoi?
Elles sont mortes parce qu'elles ne produisent absolument rien qui permet qu'elles aient une originalité dans le paysage. Et les gens vont venir consommer les produits chez eux par hasard et plus facilement chez d'autres quand les produits seront disponibles de manière plus facile ou plus rapide. Donc les chaînes qui ne font que diffuser des choses qui ne leur sont pas propres, elles sont déjà mortes.
Maxime Birmé, c'est aussi votre avis?
Ah oui, elles sont mortes à terme, en tout cas pas tout de suite, mais c'est clair qu'elles ne vont pas recruter un nouveau public en diffusant que des anciennetés.
Mais alors, cette évolution, ça va quand même plus loin que diffuser des programmes sur le web ou en rattrapage. Des programmes que l'on trouvait avant en direct, si j'ose dire, à la télévision, en broadcast, comme on dit. L'esthétique, la logique de consommation est aussi influencée par le support. On ne regarde pas une émission sur son smartphone, sur sa tablette ou sur son ordinateur de la même manière que quand on est assis devant son téléviseur, Emmanuel Tourpe.
Les programmes doivent évoluer. Exactement. Je vais l'illustrer de deux manières. Aujourd'hui, les gens qui consomment sur Internet de la vidéo, par exemple des séries, ils les consomment ce qu'on appelle en binge, c'est-à-dire ils consomment toute la saison d'une série en une seule fois, la plupart du temps en une nuit ou en deux jours. Venir distiller sur Internet, sur la VOD, la vidéo à la demande, des épisodes d'une série un par un n'a plus aucun sens pour ce public-là. Donc nous devons adapter notre façon de rendre disponibles nos contenus. De la même façon, par exemple, c'est le deuxième exemple que je vais donner, une émission, disons, culturelle, par exemple, qui doit attendre un certain délai pour être diffusée dans sa case sur une de nos chaînes habituelles. Aujourd'hui, si cette émission culturelle est liée à une actualité, on va la rendre très vite disponible, bien avant sa diffusion sur les antennes, parce que, par exemple, il y a eu un décès, il y a un hommage à rendre. Par exemple, le dessinateur Herman, qui a eu le prix de la bande dessinée à Angoulême avant-hier, ça n'a aucun sens qu'on attende deux semaines pour lui faire un orage en télé. On a tout de suite mis sur Internet tout ce que nous avions sur lui. Moi, je suis programmateur de chaîne TV. C'est un des aspects de mon travail. Les gens, et c'est un bien, vont se défaire petit à petit de ce que je leur impose. Les chaînes, vous voyez, tout est dans le mot chaîne.
Oui, tout est dans le mot chaîne, oui.
Bah oui, dans les prisons dans lesquelles je les enferme, ils se libèrent de cela et c'est une bonne chose. Et nous devons nous adapter à cette façon de faire sans perdre, ça c'est capital, la force de proposition qui est la nôtre, nos contenus locaux et également, ce qui est très très fort pour nous, le côté de relation avec le public qui continue à être entretenu, y compris sur Internet, sur les tablettes et sur la vidéo à la demande.
Emmanuel Tourpe, dernière question pour vous. Je l'ai dit, la télévision a 90 ans. Comment la voyez-vous quand elle sera centenaire? Est-ce qu'il y aura encore des chaînes de télé classiques?
Oh, très certainement. En fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que dans le restaurant télévision, les gens découvrent petit à petit qu'il n'y a pas que les menus. Les menus, c'est quoi? C'est ce que les chaînes proposent. Mais petit à petit, on va mettre en place, et on est en train de le faire largement, une possibilité pour les gens de venir consommer nos marques fortes, nos produits forts, quand ils le veulent, où ils le veulent. Et nous devons absolument nous laisser cette possibilité aux gens. Je dirais, allez, je vais faire un pronostic. Aujourd'hui, la télévision à l'allemande, ça représente entre 5 et 10% du public. Et ça reste 90% à peu près du public traditionnel sur les chaînes traditionnelles. Je dirais que dans 15 ans, on devrait être à peu près quelque chose comme 50% du public sur les chaînes traditionnelles, 50% du public sur la télévision allemande. Il y aura donc un public pour le menu et un public pour la carte.
Eh bien, merci Emmanuel Tourpe.
Avec plaisir.
Les décodeurs RTBF, l'avenir de la télé à l'ère du web. Nous en parlons avec nos invités. Maxime Biermet, journaliste média au soir. Et Gilles Coistio, journaliste à Trends Tendance, qui nous a rejoint.
10h-11h, sur la première.
Les décodeurs RTBF.
Maxime Biermet, Emmanuel Tourpe disait « Les chaînes ont quand même encore un avenir et ils voyaient à échéance de 15 ans un équilibre 50-50 entre la consommation sur les chaînes et alors l'accès via les services à la demande. » C'est aussi votre avis ?
Bah, l'air de rien, les dernières études que j'ai vues confirme qu'il y a encore une augmentation du temps passé devant la télévision, chaque fois, quelques minutes, une, deux. Ce n'est pas en réduction si énorme. Donc finalement, oui, il y a encore de l'espoir pour les chaînes de télévision. La question que je me pose, c'est de savoir comment... Donc lui parle de 50-50 hein, au niveau de la vidéo à la demande, mais comment les chaînes vont monétiser tout cela, parce qu'il va falloir... Il n'y aura pas d'espace publicitaire prévu dans la vidéo à la demande. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en tout cas pour le moment. Donc je me demande un peu comment ça va évoluer à ce niveau-là, s'ils vont vraiment avoir tellement envie de développer cette offre puisqu'elle ne leur apporte pas grand-chose, en tout cas pour le moment.
Gilles Coistio, vous êtes journaliste à Trends Tendance, je l'ai dit, c'est évidemment un des grands enjeux, cette évolution, et on le voit encore dans cette enquête britannique qui montre que les jeunes de moins de 16 ans au Royaume-Uni sont davantage sur le web, et même quand ils ont la possibilité d'avoir Netflix, regardent davantage le service de streaming que BBC One ou ITV. Derrière tout cela, il y a évidemment un changement global de la monétisation de tout le système. C'est une évolution très très profonde.
Voilà, alors effectivement, si on parle de monétisation, aujourd'hui, il y a deux modèles. Il y a le modèle Netflix, qui est un modèle de subscription, d'abonnement. Mmh. Donc c'est peut-être un modèle comme ça que les chaînes pourraient mettre en place. Et l'autre modèle, c'est évidemment le modèle YouTube, qui lui est un modèle gratuit, rémunéré uniquement par la publicité, mais là qui s'adresse vraiment à un public totalement mondialisé. Hein. Il faut savoir que YouTube, c'est 1 milliard d'utilisateurs, donc c'est absolument considérable. Et c'est un modèle économique qui est évidemment assez différent de celui de la télévision.
Et quel pourrait rester le modèle économique des chaînes comme la RTBF ou RTL TVI ?
Elles doivent absolument miser sur un contenu local, puisque c'est vraiment là-dessus qu'elles peuvent faire la différence. Aujourd'hui, le contenu qui est beaucoup plus standardisé, ça va être de plus en plus difficile pour les chaînes de télévision, et on le voit pour les chaînes à payage d'ailleurs, qui sont vraiment sur le même marché qu'un Netflix par exemple, qui va acheter des droits aujourd'hui au niveau mondial. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est pour ça qu'ils se sont lancés aujourd'hui dans plus de 130 pays supplémentaires. Ils couvrent quasiment la terre entière. C'est parce que leur objectif, c'est d'acheter les droits une seule fois pour l'ensemble du territoire mondial. Et donc les chaînes, probablement plus tard, devront aussi se positionner sur ce créneau-là. Et là, ça va être difficile, c'est pour ça qu'il faut qu'elles marquent leur différence sur le contenu produit localement.
Maxime Biermet.
Elles doivent marquer leur différence, mais elles doivent aussi s'entendre, je crois, parce que la télé, dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera dans le futur, si on l'imagine ? C'est une smart TV, c'est télé connectée, à laquelle on peut parler et à laquelle on peut dire, dans une sorte de grand conglomérat, voilà, je veux regarder telle émission sur telle chaîne, et il faut donc quelque chose comme Netflix qui regroupe toutes les émissions de toutes les chaînes, par exemple.
Ce que Netflix induit, c'est aussi un changement dans la facilité d'accès au programme. C'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un programme sur son téléphone, sa tablette, son ordinateur, tout ça intégré. On commence sur l'un, on continue sur l'autre, ça vient très rapidement, etc. Que le bon vieux système d'aller encore rechercher quelque chose sur son téléviseur, mais on ne le retrouve pas nécessairement sur un autre support. Ce que Netflix change aussi, c'est cette modification fondamentale dans la facilité d'accès.
C'est un des gros enjeux parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui les chaînes et les opérateurs télécoms qui déploient des offres VOD. Je vais dire que c'est un petit peu le Moyen-Âge de ces offres VOD. Hein. On se croit un petit peu dans les années
90. Elles sont moins optimalisées, moins conviviales que celles de Netflix.
Je pense que tout le monde en a fait l'expérience d'aller voir sur la VOD de Proximus ou la VOD de RTL ou de n'importe quelle autre chaîne. On manœuvre ça avec la télécommande de la télévision et c'est absolument atroce de retrouver le film qu'on est en train de rechercher. Ce que Netflix a réussi à mettre sur pied, c'est évidemment une interface qui est issu du web et donc qui est beaucoup plus convivial. Et aujourd'hui, on sait que la barrière, elle est plus technologique, puisque tous les écrans que l'on a, que ce soit le smartphone, que ce soit la tablette ou l'écran de télévision, tout ça est aujourd'hui interconnecté. On parlait des smart TV tout à l'heure. Il y a aujourd'hui une facilité, grâce à Internet et grâce aux tablettes, à naviguer dans des menus de manière beaucoup plus conviviale. Et c'est là-dessus que les chaînes et les opérateurs doivent absolument miser pour créer des offres VOD qui soient vraiment concurrentielles.
Maxime Mermet.
Je suis d'accord.
Est-ce que vous voyez aussi au niveau Lucien, au niveau des contenus qui seront proposés? Parce que, pour revenir à question pour un champion, c'est un programme que l'on peut regarder devant son téléviseur, mais même indépendamment de l'âge, c'est quand même pas nécessairement un programme que l'on va regarder sur son téléphone. Est-ce que vous pensez que toute cette modification va aussi induire des changements dans le format des programmes, dans leur rythme, dans leur durée, dans leur facture, dans leur esthétique ?
Bien sûr, je pense qu'en fait ces programmes vont